Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, Alep tombée aux mains d'une alliance de groupes djihadistes et rebelles. La majeure partie de la deuxième ville syrienne est maintenant sous son contrôle au terme d'une offensive éclair. L'armée syrienne reconnaît des dizaines de morts et deux blessés. Trêve très fragile au sud-Liban. L'armée israélienne a encore frappé un site, affirmant qu'il servait au Hezbollah pour acheminer des armes. La position du gouvernement français plus que jamais fragilisée en pleine crise budgétaire et devant la menace d'un vote de censure. La France qui pourtant échappe à une dégradation de sa note par l'agence Standard & Poor's. Dans ce journal aussi, J-1 avant la fin du sommet de Busan en Corée du Sud. Les 175 pays présents jusqu'à demain pour trouver un accord sur la pollution plastique. Mais tout de suite et pour commencer, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui ouvre la porte à un éventuel cessez-le-feu. Il le fait dans une interview à la chaîne britannique Sky News, se disant prêt à attendre avant de pouvoir récupérer les régions actuellement occupées par la Russie. Elles représentent environ 20% de son pays. Mais Volodymyr Zelensky demande dans le même temps une protection au moins partielle de l'Ukraine par l'OTAN. Un extrait de cette interview.
Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, nous devons placer le territoire de l'Ukraine que nous contrôlons sous la protection de l'OTAN. C'est ce que nous devons faire dans un premier temps. L'Ukraine pourra ensuite récupérer le reste de son territoire de manière diplomatique. Cette proposition n'a jamais été envisagée par l'Ukraine car personne ne nous l'a jamais proposée officiellement. Pourtant, le fait est qu'il s'agit d'une solution pour arrêter la phase chaude de la guerre. En effet, nous pourrions donner l'adhésion à l'OTAN à la seule partie de l'Ukraine qui est sous notre contrôle. Mais l'invitation devra être adressée à l'Ukraine dans son ensemble, selon ses frontières internationalement reconnues. Pourquoi ? Parce que sinon, cela reviendrait à reconnaître que l'Ukraine se réduit à son territoire occupé actuellement et que le reste de l'Ukraine appartient à la Russie.
Volodymyr Zelensky sur Sky News. De son côté, Vladimir Poutine exige un retrait plus important de l'armée ukrainienne et il s'oppose à toute adhésion de son adversaire à l'OTAN. Les djihadistes et leurs alliés contrôlent maintenant la majeure partie d'Alep, deuxième ville syrienne avec 2 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-ouest du pays. Les forces antigouvernementales ont avancé très vite cette semaine, sans rencontrer de véritables résistances. Les autorités ont même pris la fuite. L'armée syrienne déplore des dizaines de morts et de blessés dans l'offensive des djihadistes et elle confirme la présence de combattants anti-régime dans de larges parties d'Alep. Enfin, des avions de guerre russes et syriens ont ciblé des combattants rebelles aux alentours de la ville dont l'aéroport a été fermé. Au sud Liban, la trêve est très fragile. Ce matin, l'armée israélienne a encore frappé un site, affirmant qu'il servait au Hezbollah pour acheminer des armes. L'enclave palestinienne de Gaza, elle, attend toujours une trêve. Des discussions devaient avoir lieu aujourd'hui au Caire, en présence d'une délégation du Hamas. En plus d'un an de guerre, celui-ci annonce un total approchant 44 400 morts. En Jordanie, des milliers de manifestants ont défilé hier dans la capitale Amman, réclamant la signature d'un accord pour Gaza. Reportage de notre correspondant Mohamed Erami.
Les slogans et les revendications des participants aux manifestations hebdomadaires organisées par les Jordaniens depuis le début de la guerre israélo-palestinienne ont pris une nouvelle tournure après l'annonce de cessez-le-feu au Liban. Les participants des partis de gauche et du centre ont salué l'arrêt des combats, mais ont exprimé des craintes quant à la reprise des hostilités en raison des violations israéliennes, comme l'explique Hiba, l'une des participantes.
Je participe pour soutenir le Liban. Il est essentiel que ces agressions israéliennes cessent. Il faut aussi libérer la Palestine du fleuve à la mer.
Les partis islamistes et nationalistes ont appelé de leur côté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il cesse la guerre à Gaza.
En tant que peuple jordanien, nous soutenons l'arrêt des combats au Liban. Le monde et le gouvernement jordanien doivent mettre fin à toute forme de normalisation avec cette entité qui menace les Jordaniens.
Cette semaine, les manifestations ont attiré des milliers de Jordaniens car elle coïncide avec la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Mohamed Erami, Amman, RFI.
En Géorgie, les autorités annoncent un total précisément de 107 arrestations, le deuxième jour des manifestations antigouvernementales. En pleine crise post-électorale, l'opposition reproche au gouvernement sa décision de reporter les discussions sur l'adhésion à l'Union européenne. Hier soir, les forces de l'ordre ont fait usage de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser des milliers de manifestants. On votait hier en Irlande, élections législatives. Ce matin, le décompte des voix a commencé. Et tout indique une reconduction des deux partis centristes de la coalition sortante au détriment du Sinn Féin, le Sinn Féin, parti nationaliste de gauche. Le plastique et ses dangers pour la santé au cœur de discussions actuellement en Corée du Sud. Un sommet se tient dans la ville de Busan. Les négociations touchent à leur fin. Les représentants de 175 pays ont jusqu'à demain dimanche pour trouver un compromis sur la réduction de la pollution plastique. Ce week-end, plusieurs ministres sont venus en renfort de leur délégation à l'image de la ministre française de l'énergie, Olga Givernet. Correspondance de Célio Fioretti.
Arrivé hier à Busan, en Corée du Sud, pour suivre la fin des négociations sur le traité sur la pollution plastique, Olga Givernet s'affiche déterminée à trouver un accord, un texte que la France veut ambitieux.
C'est très important que la France soit ici, évidemment, pour ces négociations sur le plastique. C'est un point important parce que nous sommes très présents au sein de l'Union européenne pour avoir un traité ambitieux sur le plastique. Ambitieux, ça veut dire que on ne s'arrête pas simplement à avoir un autre traité sur la gestion de déchets plastiques, mais c'est surtout pour avoir d'autres points que sont la réduction de la production du plastique. C'est important de faire comprendre que pour les générations à venir, nous sommes à un moment historique de décision et qu'il ne faut pas passer à côté.
À 24 heures de la fin des négociations, le ministère de la Transition écologique souhaite arriver à un consensus avec toutes les parties pour donner sa chance au multilatéralisme. Olga Givernet compte s'entretenir avec le vice-ministre chinois de l'Environnement pour trouver un accord avec ce pays opposé à la réduction de plastique. L'option du vote sur le texte, comme le proposent les pays vulnérables, n'est pas envisagée par Paris. C'est le Fioretti, Busan, RFI.
En France, la position du gouvernement est plus que jamais fragilisée en pleine crise budgétaire et devant la menace d'un vote de censure à l'Assemblée. Le Premier ministre Michel Barnier fait des concessions à l'extrême droite, mais aussi aux agriculteurs en colère. La ministre de l'Agriculture estime que ces agriculteurs en ont ras-le-bol des interdictions, des procédures et des normes, autant de boulets selon elle. Elle a présenté des mesures de simplification qui vont dans le bon sens aux yeux des syndicats. Et puis dans ce contexte périlleux pour le gouvernement, l'agence de notation Standard & Poor's a décidé de maintenir la note de la dette de la France. Voilà, dans l'ordre. Et maintenant, le chiffre qui fâche, 1 milliard d'euros de dividendes pour les actionnaires de Decathlon. Ces actionnaires sont réunis au sein de la famille Mullier, propriétaire de la grande enseigne française de sport. Leurs dividendes leur sont versés au titre de l'exercice 2024, alors que l'entreprise n'atteindra pas ses objectifs cette année en raison d'une activité en demi-teinte. Les syndicats de salariés sont sous le choc de ce montant, Alexis Bédu.
Pas d'argent pour les négociations salariales, des magasins aux tailles réduites pour minimiser les coûts, des conditions de travail qui se détériorent, disent les syndicats. Cette annonce de versement de dividendes pour l'actionnaire principal, à savoir la famille Mullier, est en totale contradiction avec la situation financière de l'entreprise. C'est ce qu'explique Aurélie Flizard, secrétaire générale adjointe de la Fédération des services à la CFDT.
Notre réaction première, c'est stupéfaction, indignation, incompréhension, puisque les actionnaires vont se verser donc ce 1 milliard d'euros dès lundi. Mais par contre, il n'y a absolument rien qui est donné aux salariés. L'annonce ayant été faite le vendredi de Black Friday, en fait, les salariés ont l'impression d'être bradés pour Black Friday. Dans un contexte dégradé, pour nous, c'est vraiment incompréhensible.
La CFDT demande également aux parlementaires français l'ouverture d'une commission d'enquête, car Decathlon a touché de l'argent public au titre du CICE.
L'impression que ça donne, c'est que ces aides publiques servent à financer des dividendes et les actionnaires, plus que le maintien dans l'emploi et la rémunération des salariés.
La galaxie Mullier, ça n'est pas que Decathlon, c'est aussi aussi Leroy Merlin, Kiabi, Noroto, mais surtout Auchan, le distributeur alimentaire dans un état critique. 2400 emplois sont menacés par un plan social d'ampleur annoncé au début du mois.
Alexis Bédu du service économie. Enfin, le pape François s'est exprimé ce matin au Vatican contre l'euthanasie. Il l'a fait devant des parlementaires du sud de la France. La France, sous un projet de loi, envisage le droit à une aide à mourir. François effectuera dans 2 semaines une visite en Corse, île française de Méditerranée. Voilà, prochain journal sur RFI, 16h avec Charlotte Hydrac. Tout de suite, la marche du monde présentée par Valérie Nivelon.